13h30 minutes. On sait que, et on le voit depuis le début de l'année scolaire, pour les écoles primaires, écoles secondaires, c'est quasi instantané. Hein? Il y a des cas, il y a des tests positifs à la COVID, soit chez le personnel ou les élèves. Automatiquement, la santé publique est informée. Il y a diffusion de l'information également. On est très transparent, hein, dans les écoles. Et c'est bien de le faire. Puis on l'a vu aussi autant dans le public que dans le privé, là. Pour l'université, tu sais, qui est une ville en soi, un campus universitaire, puis ça fait du monde à rejoindre en baptême, est-ce qu'il y a cette notion de déclaration obligatoire? Parce que des gens qui fréquentent l'université, il y a des gens qui sont là, bien sûr, dans le personnel, d'autres qui sont étudiants, d'autres qui sont chargés de cours. Certains, c'est à distance, d'autres, c'est en présence qui suivent leur cursus universitaire. Mais il y en... Passez-moi l'expression, mais sortez pas de mauvais jeu de mots, mais il y en a du va-et-vient, là. Et ça amène beaucoup de monde, beaucoup de déplacements. Mais ça se passe comment quand il arrive des cas? Parce que nous, on m'informe, tu sais, qu'il y aurait des cas, OK? Mais quand on va sur les comptes rendus quotidiens, il n'y en a pas nécessairement mention. Ben, du moins, pas à date. Qu'en est-il? Puis en plus, on le sait, le campus de l'Université de Sherbrooke compte son centre de dépistage. Le recteur de l'université, le Dr Pierre Cossette, est en ligne. Bonjour, docteur.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous avez eu écho de cas positifs parmi les gens, soit étudiants, employés... ou enseignant de l'université?
Bien, pour nous, honnêtement, ce qui est vraiment très important, c'est de distinguer les éclosions puis les cas. Donc, on n'a aucune éclosion et on est très, très content de ça.
Oui.
Seulement, vous l'évoquiez dans votre introduction, l'Université de Sherbrooke, juste à Sherbrooke, je ne parlerai pas de Longueuil, là, c'est à peu près 30 000 personnes qui travaillent sur nos deux campus, évidemment beaucoup plus en nombre au campus principal qu'au campus de la santé. Mm-hmm. C'est 30 000 étudiants et personnes de tous âges là, qui nous fréquentent et qui font partie de notre communauté. Donc, c'est sûr que nous, puis on a ouvert depuis le mois de mai, parce que l'administration a recommencé, la recherche a recommencé, et tout ça est là. Mais donc, c'est sûr que nous, on travaille en lien constant, 7 jours sur 7 avec la santé publique depuis des mois, parce que chaque fois qu'il y a une situation, puis on parle des cas, mais pour nos équipes, là, tous les gens qui se font dépister, vous savez, hein, c'est quelque chose, quand on se fait dépister, on attend s'il faut. Donc, nous, faut toujours gérer en temps réel, à chaque jour, cette réalité-là, d'être capable de faire les gestes qu'il faut, parce qu'effectivement, on a choisi d'avoir un maximum d'activités en présence, puis les gens sont très contents, puis on est heureux de ça.
Mais ça amène beaucoup de mesures et beaucoup de précautions à prendre.
Ah oui, c'est une énorme quantité de travail, puis vous l'avez évoqué, nous, notre centre de dépistage, il a été en rodage pour les deux premières semaines, mais maintenant, c'est 120 personnes par semaine qui se font tester, à peu près 65% sont des étudiants, d'autres, le 35% qui reste, c'est des membres du personnel, on a des unités pour l'isolation s'il y a des cas positifs, présentement. Pardon. Comme il n'y a aucune éclosion, on n'a pas personne. En fait, les seules personnes qu'on a dans notre unité d'isolement, c'est des étudiants internationaux qui font leur quarantaine. Là.
Okay.
Donc, parce que s'ils arrivent de l'extérieur, là, il y a toute une série de protocoles qu'on suit.
Oui.
Donc, pour nous, honnêtement, dès le départ, puis ça, je l'avais dit, puis on l'a dit toujours, c'est sûr qu'il va y avoir des cas. Nous, c'est les éclosions qu'on veut éviter. Parce que quand gère une ville, comme vous avez dit, c'est comme une ville. Donc, par définition, il y a des situations variées qui vont arriver. Nous, on ne veut pas d'éclosion. Puis on travaille. Pour tout ce qui est des bilans, nous, on se remet complètement à la santé publique et on leur parle quotidiennement. Je parle régulièrement avec Dr Poirier. Mm-hmm. Nos équipes travaillent vraiment quotidiennement ensemble parce qu'on ne veut pas faire de bruit supplémentaire parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations, admettons qu'il y a 10 personnes qui se font tester dans un coin, qu'on doit changer leur programmation, bien là, ces 10 personnes-là sont au courant puis leur professeur. Mm-hmm. Donc ça, c'est fait là à haut débit, à chaque jour. Donc, et on est très, très content, honnêtement, là, de la participation des gens, de la participation des étudiants. Nos associations étudiantes veulent nous aider à ce que ça continue de bien aller. Fait que c'est dans ce film-là qu'on joue, mais c'est une intensité de travail qui est considérable.
Ouais. Est-ce que vous êtes obligé de jouer à la police?
Pas beaucoup, en fait. Je suis très content de ça parce qu'on pensait qu'on aurait à le faire. Mais écoutez, là, tu sais, qu'on a décidé le couvre-visage, peut-être vous vous rappellerez, mais nous, au cours d'été, on avait décidé de mettre le couvre-visage avant que le gouvernement veuille
l'imposer.
On va jouer à la police. Pas du tout. Les gens sont très disciplinés. Mais c'est comme dans la vie quotidienne. Par contre, là, on a mis des tables à pique-nique sur le camping. Le camping. J'allais faire une analogie sur le campus. Au début, on s'est rendu compte que, bon, autour des petites tables à pique-nique, les gens avaient tendance à se rassembler un petit peu trop proches. Avec nos escouades étudiantes qu'on a formées.
Okay.
Font des rappels de courtoisie. Puis les gens collaborent très bien. Là, on a quelques petits anicroches, mais c'est presque rien. On avait même prévu, si nécessaire, donner des amendes. On n'a pas eu besoin de le faire.
Les gens
veulent que ça marche.
Ouais. Puis au niveau du centre de dépistage, il faut le rappeler, là, parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut se pointer là. C'est vraiment...
Ce sont les gens liés
à l'université, là.
Oui, il faut que ce soit étudiant ou employé de l'université, parce que nous, on ne veut pas drainer des gens malades supplémentaires à l'université. Notre but, c'est d'éviter que si jamais il y a des gens qui ont des symptômes ou autres, qui sont déjà sur le lieu de travail, aient à se déplacer, puis aussi d'offrir un service qui fonctionne bien. Là.
Ouais.
Mais encore là, c'est nous qui opérons le centre de dépistage, mais tous les résultats, tout ce qui vient en lien avec ça est géré conjointement avec la santé publique. Nous, on n'a pas de système de santé parallèle. On est juste un point de service de plus. Puis la santé publique, mais il y a le CIUS de l'Estrichu aussi, qui est un très, très beau, bon partenaire là, dans cette aventure.
Est-ce que la faculté de médecine est appelée d'ailleurs dans ce cadre-là à avoir un rôle particulier? Parce qu'on se souviendra qu'au printemps, là, on avait appelé beaucoup de renforts à la faculté là, pour soutenir le réseau. Est-ce qu'encore aujourd'hui, la faculté et ses gens ont un rôle peut-être de plus à jouer qu'à l'habitude?
Bien, c'est sûr que tous nos résidents et tous nos résidents de médecine dans les spécialités médecine de famille, tous les stagiaires en soins infirmiers, donc c'est sûr que ces personnes-là sont impliquées directement sur le terrain. Ceci, puis il y a aussi nos équipes de chercheurs, là, parce qu'on a produit le Cherbivin, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous aviez vu ça, mais initialement, dans la crise, il manquait de réactifs pour faire les tests, puis nos équipes avaient pu en faire, donc on réactive ça au besoin, mais c'est toujours en lien avec le CIUS d'Estrichu. Ceci dit, pour ce qui est de la faculté de médecine et sciences de la santé, nous, notre priorité, c'est que les étudiants puissent poursuivre leurs études. Ils ont un taux d'activité en présence assez élevé. Fait que pour tous les étudiants, là, c'est quand même là notre priorité. Il y a un certain nombre de personnes qui appuient un peu la santé publique dans leur temps libre, si on veut dire. Là. On a des professeurs retraités qui s'impliquent, pour aider les équipes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Ouais.
Voilà.
On s'entend que c'est toujours à considérer. On oublie souvent que c'est par dizaines de milliers de personnes que l'université génère en quelque sorte. Là, c'est énormément de monde. Il ne faut pas se surprendre qu'il y en ait des cas. Là,
ben nous, on est fiers de ce qu'on fait parce que, vous savez, on peut le dire maintenant, on se croisait les doigts, mais avec les activités d'intégration puis la rentrée, on se disait, est-ce qu'on va avoir des éclosions?
Ouais.
Mais là, ça fait plus de deux semaines puis il n'y en a pas eu. Donc, on est très, très contents de ça. Des fois, on se disait à la blague, c'est probablement sur le campus qu'ils sont le plus en sécurité. Parce qu'il y a tellement de règles à suivre. On disait la blague, mais c'était pas tant la blague que ça, parce que c'est sûr qu'ici, les normes sont très strictes, puis les gens collaborent.
OK. Les étudiants étrangers, vous avez ouvert la porte tout à l'heure à ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir ces étudiants qui s'étaient inscrits chez nous, et c'est quoi la proportion de « oui, ils sont venus » par rapport à ce qui était souhaité?
Bien, on n'a pas les chiffres définitifs, mais c'est sûr que c'est une assez grande préoccupation pour l'université parce que tous les étudiants qui avaient déjà un permis valide ont pu revenir, ceux qui voulaient. Puis ça, on le gère là, avec les quarantaines. Je veux rassurer tout le monde. Les gens qui arrivent ici sont pris en charge, ils ont les quarantaines. Donc tout ça, ça marche bien. L'enjeu qu'on a, c'est que les nouveaux permis d'études ont cessé d'être émis en mars cette année. Et puis là, il faut réaliser que nous, il y a une bonne partie de la recherche en sciences naturelles, génie, même en médecine et sciences de la santé, c'est les étudiants au doctorat et à la maîtrise qui collaborent à ça. Il y a quand même une bonne proportion qui sont des étudiants internationaux. Donc c'est sûr que nous, on est en pourparler actif avec les gouvernements parce que on a démontré qu'on est capable de faire de façon sécuritaire le travail qu'on a à faire. autant avec les internationaux d'ailleurs qu'avec les autres. Donc pour nous, ce serait vraiment le temps là, qu'on puisse envoyer un signal à ces étudiants-là. Que, ouais. Parce que vous savez, entre les pays d'Europe, là, ils peuvent circuler librement maintenant. Donc voilà.
C'est ça l'affaire, mais ça semble tellement lent. On le voit dans le monde du sport, mais ça concerne énormément les études et la recherche, entre autres pour chez vous. Alors je pense de secouer un peu le pommier du gouvernement fédéral, c'est une bonne chose.
Mais écoutez, il y avait initialement une prudence, là, un réflexe de prudence, le principe de précaution qu'on comprenait. Mais là, maintenant, on est ailleurs parce que là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Là. Il n'est pas parti pour disparaître. Là. Donc là, il faut apprendre à vivre au temps de la COVID. Puis ça on ne veut pas juste se renfermer. Là. Oui. Il faut trouver des façons. Évidemment, si vous l'avez évoqué, en fonction des codes, c'est des étapes de reconfinement qu'on doit faire. On va s'y prêter comme tous les citoyens. Mais nous, on fait tout en notre pouvoir de faire les choses d'une façon sécuritaire.
Merci, M. Cossette.
Merci beaucoup.
Merci, le Dr Pierre Cossette, le recteur de l'Université de Sherbrooke.